Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Ce mois-ci, dans l'actualité des DVD Blu-ray, nous parlons de La Garçonnière de Billy Wilder en compagnie du journaliste Frédéric Mercier et d'une curiosité SF tout droit venue de Tchécoslovaquie. Dans l'actualité des DVD Blu-ray, débutons avec La Garçonnière de Billy Wilder qui ressort dans une très belle édition chez Rimini, classique parmi les classiques avec Jack Lemmon et Shirley MacLaine. Et pour nous en parler, nous avons par téléphone Frédéric Mercier qui a collaboré à cette édition DVD Blu-ray. Frédéric Mercier, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, en quoi La Garçonnière est-il un film si important dans la carrière de Billy Wilder ?
Alors, c'est un film important dans la carrière de Wilder à divers égards. La première, c'est que c'est le premier film qu'il réalise après Saturday Night Show, qui a été un immense succès. Et c'est ensuite le premier film d'une série de collaborations que va réaliser Billy Wilder avec à la fois donc E.L. Diamond, avec qui il vient d'écrire Saturday Night Show, qui est son nouveau scénariste après Charles Brackett. Et ensuite, c'est le début donc d'une série de films qui vont être tournés pour la plupart en noir et blanc et cinémascope. Il y a une exception qui est Kirma la Douce dans cette série de films. Et donc la plupart du temps, ce sont des films tournés en cinémascope avec E.L. Diamond, des acteurs qui vont être récurrents, et Alexandre Tronner au décor. Et ce qui est important dans le cas de La Garçonnière, c'est que, sans vous dire vraiment, c'est le début d'une nouvelle période dans la carrière de Billy Wilder, à ce moment-là du début des années 60.
Alors, on dit que Billy Wilder s'est inspiré de plusieurs choses. D'abord du film Brève Rencontre de David Lean, où à un moment donné, le couple demande à un ami de lui prêter son appartement. Et c'est une idée qui a germé dans la tête de Billy Wilder. Et puis aussi, je crois, d'un fait divers assez connu à Hollywood, celui d'un producteur qui aurait tué l'amant de sa femme dans une garçonnière louée par un employé de son agence artistique. Hein. Je crois que c'est à peu près l'histoire. Wilder s'est évidemment éloigné, au vu de son style, de ses inspirations.
Oui, il s'en est évidemment inspiré. Mais la particularité du film, c'est que si c'est une comédie, vous venez de rappeler quand même des faits divers qui sont un peu dramatiques. C'est un film qui est moins enlevé et joyeux, par exemple, que l'était Saturday Night Show ou que l'était certaines comédies qu'avait réalisées Billy Wilder dans les années 50, comme évidemment Certains de réflexion. C'est un film qui est toujours empreint de drame. On est vraiment sur la vie, on va dire, de laisser pour compte de l'Amérique dans ces années 60, qui sont obligés de faire des compromis pour pouvoir essayer de vivre comme ils le peuvent le rêve américain. Et donc le rire est toujours teinté de malaise et de drame tout au long de la séance.
Et le film est aussi assez osé pour l'époque, avec un petit peu de recul, puisqu'il traite de l'adultère, qui était devenu acceptable, mais encore, quand même, en 1960, très controversé.
Oui, alors, le film traite de l'adultère, effectivement, à travers, en fait, on va dire, les différentes couches sociales, dans la mesure où le personnage joué par Jack Lemmon prête son appartement à ses supérieurs hiérarchiques pour qu'ils puissent emmener leur maîtresse chacun dans cette garçonnière et pouvoir vivre quelques instants avec elle. Évidemment, le film est très particulier sur cette question de l'adultère, mais là où il me semble intéressant, c'est que il y a un personnage dans le film qui est joué par Fred McMurray, qui joue le grand patron de cette société dans laquelle travaillent les personnages joués par Shirley MacLaine et Jack Lemmon, et c'est quelqu'un qui fait extrêmement vite comprendre qu'en fait la vie maritale ne peut lui convenir, que la vie maritale ne peut convenir à un homme dans cette société, et que donc ces hommes-là sont obligés de s'offrir du bon temps avec d'autres filles. Mais là où le film est surtout très grinçant, on va dire, c'est que les strates sociales et les différentes couches sociales par lesquelles, et l'ascenseur social par lesquels doivent passer les personnages, passent par des espèces de promotions canapé, ou alors par une forme de réorganisation du travail qui passe par une réorganisation de la vie sexuelle des employés de cette société. C'est là où le film est très grinçant, c'est-à-dire que en fait les femmes sont des divertissements ou sont alors des objets que les hommes se refilent les uns avec les uns les autres pour pouvoir en échange de bons services et de promotion entre eux. Et c'est le cas dans lequel est pris le personnage de Jack Lemmon, c'est-à-dire que lui, il pense que s'il offre cette garçonnière au prix de même de devoir parfois dormir dans la rue à ses supérieurs, eh bien il pourra gravir les échelons de cette société. Et on ne voit jamais Jack Lemmon travailler véritablement dans cette société immense aux bureaux qui sont absolument gigantesques et qui rappellent ceux de la foule de King Vidor dans les années 20, qui est vraiment, à mon avis, l'influence particulière du film. On voit Jack Lemmon, en fait, organiser sans cesse son emploi du temps et l'emploi du temps de ses supérieurs hiérarchiques pour pouvoir gravir les échelons de cette société. Donc en fait, le passe-droit, la promotion canapé sont devenus le centre de l'organisation du travail.
Alors ces bureaux en effet sont gigantesques, c'est une des caractéristiques un peu visuelles du film, grâce aussi bien sûr au travail d'Alexandre Trenner, on en parle dans cette édition DVD. C'est un film aussi qui mêle un certain réalisme, voire même, c'est un certain réalisme au niveau de l'image. On n'est pas du tout dans une pure sophistication. Il y a aussi quelque chose qui n'est pas, en tout cas dans l'image et les décors, qui n'est pas que du ressort de la comédie.
Non, qui n'est pas du ressort de la comédie ou de la comédie sophistiquée, ou on va dire un travail à Lubitsch, par exemple, dans les années 30. Non, pas du tout. Quand je vous parle vraiment de l'influence de la foule de King Vidor, c'est-à-dire vraiment, il y a cette idée quand même de faire une chronique réaliste, effectivement, dans La Garçonnière, et de raconter l'histoire d'un homme et d'une femme dans la foule, au milieu, dans cette société. Et il y a effectivement un travail important au niveau des décors. Évidemment, Trenner fait quelque chose d'extraordinaire au niveau des bureaux, qui ont l'air d'être... De s'étendre à l'infini. On a l'impression vraiment qu'il y a une perspective sans fin qui s'étend au-delà des bureaux et du bureau de Jack Lemmon. Mais il y a un travail, à mon avis, qui est équivalent, par exemple, à la façon simplement de représenter cette garçonnière, c'est de représenter cet appartement simple, modeste, dans lequel vit Jack Lemmon et où va se passer quand même l'essentiel de l'action. Donc oui, je pense qu'il y a un ancrage très 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 réaliste dans le film, mais cet ancrage réaliste en fait est dans le cinéma de Billy Wilder depuis quasiment ses débuts de cinéaste. On va dire depuis après La Valse de l'Empereur, on va dire à partir de peut-être du Gouffre aux Chimères ou alors Le Poison même dans les années 40. Il y a quand même le réalisme est au cœur du cinéma de Billy Wilder depuis quasiment ses débuts.
Et puis si le film fonctionne si bien, c'est aussi évidemment grâce au tandem formé par Jack Lemmon et Shirley MacLaine. Il y a une alchimie entre eux. Jack Lemmon trouve là un de ses meilleurs rôles. Vous en avez un petit peu parlé au début de cette collaboration fructueuse avec Billy Wilder. Il y a en plus une identification directe avec ce personnage finalement de l'Américain moyen qui fonctionne très très bien.
Oui, Wilder le disait, hein, Jack Lemmon c'est son John Doe, c'est son Américain moyen, c'est son... Monsieur Tout-le-Monde, hein, comme l'a été par exemple James Stewart pour Alfred Hitchcock, ou Gary Cooper peut-être pour Frank Capra. Et effectivement, c'est le début du ils ont tourné certains même shows déjà ensemble, ils vont encore tourner beaucoup de films ensemble. Je crois que c'est la plus longue collaboration en tant qu'acteur avec Billy Wilder, c'est Jack Lemmon, puisque on va retrouver Jack Lemmon juste après dans Irma la Douce, ensuite dans La Grande Combine, dans Avanti, dans The Front Page. Donc vous voyez, c'est vraiment, il a trouvé son John Doe, il a trouvé son Américain moyen. Et c'est très fort parce que Jack Lemmon, à mon avis, dans son corps, dans son jeu, dans sa façon, dans son expression, incarne, on va dire, les deux versants du cinéma de Billy Wilder. C'est-à-dire à la fois ce réalisme dont on parlait et peut-être le caractère plus satirique et parfois grimaçant de son cinéma. Et en particulier de ce cinéma à partir du début des années 60, quand Billy Wilder rentre dans cette avant-dernière phase, on va dire, de sa carrière. C'est-à-dire, d'un côté, on a un Jack Lemmon qui est extrêmement grimaçant quand il est en société, qui a l'air presque de ressembler à un pantin et qui joue énormément de son visage. Et puis soudain, dès qu'il se retrouve dans les scènes intimes, en particulier avec Shirley MacLaine, dès qu'on se retrouve dans des scènes plus graves, plus intimes, plus lyriques peut-être, eh bien on a un acteur qui est beaucoup, beaucoup plus sobre. Beaucoup plus sobre à ce moment-là. Je pense que Jack Lemmon a, Wilder a trouvé en Jack Lemmon quelqu'un qui, dans le corps duquel et dans le visage duquel cohabitaient les deux tendances peut-être ou la formule de son cinéma.
Eh bien Frédéric Mercier, merci beaucoup de nous avoir parlé de cette édition donc DVD Blu-ray de La Garçonnière qui comporte donc de nombreux bonus dans lequel on vous retrouve en compagnie de Mathieu Macharet du Monde, mais aussi on y retrouve un entretien avec Didier Nert, peintre et architecte, à propos des décors justement de Alexandre Tronner, et également une interview de la comédienne Hope Holliday, un court documentaire sur l'art de Jack Lemmon, et puis un documentaire un peu plus long sur l'histoire du film. Donc voilà, une édition copieuse à ne pas manquer. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Couldn't happen to a nicer guy. You know, you're the only one around here who ever takes his hat off in the elevator.
Really?
The characters you meet. Something happens to men in elevators. Must be the change of altitude. The blood rushes to their head or something. Boy, I could tell you stories that
would... I'd have to hear them. Maybe we could have lunch in the cafeteria sometime. Or some evening after work.
27.
Oh.
I hope everything goes all right.
I hope so. Wouldn't you know they call me on a day like this? What, with a cold? Or how do I look?
Fine. Wait.
Thank you. You know, that's the first thing I ever noticed about you. When you were still in the local elevator, you always wore a flower.
Good luck, and wipe your nose.
Parmi les autres sorties DVD Blu-ray, citons une curiosité, une véritable curiosité venue de Tchécoslovaquie, intitulée Ikari XB1 de Jindřich Polák, réalisé en 1963, que l'on peut découvrir pour la première fois en DVD en version 4K. Alors nous sommes à bord du vaisseau spatial Ikari. Un équipage se dirige vers la constellation Alpha du Centaure afin d'y trouver une nouvelle forme de vie extraterrestre. C'est un film donc totalement inédit, tourné évidemment en pleine période soviétique, adapté d'un roman de l'écrivain Stanislas Lem qui avait inspiré et qui inspira quelques années plus tard Andrei Tarkovsky et son Solaris. Un budget à l'époque de 5 millions de couronnes tchèques tout de même, soit un blockbuster on pourrait dire aujourd'hui, et qui a pu en effet inspirer par certains endroits Stanley Kubrick et son 2001. Ici et là, c'est vrai qu'on... Des passages rappellent certains futurs classiques de la SF comme Star Wars ou Alien. Et puis on est aussi frappé quand même par la modernité de la bande-son composée par Zdeněk Liska et un très très beau noir et blanc magnifié grâce à cette très belle restauration. Alors ne nous en ballons pas trop, nous ne sommes pas dans le chef-d'œuvre absolu et impérissable de la SF qui est quand même un film voilà un peu brinque-ballant, mais il demeure une véritable curiosité esthétique tout à fait recommandable.
Uplynou léta a děti se budou učit, že jsme byli první, kteří se vydali do vesmíru hledat život na planetách Alfy Centauri.
Že se ve vesmíru už nemůže nic nového objevit. Může.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séances Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.